Écoute, d'heure essentielle, c'est le moment de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire Mon corps, ma vie avec Hicham Ben Abestarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il vient de nous rejoindre en studio. Bonjour et bienvenue.
Merci, toujours un plaisir.
Alors, on s'intéresse aujourd'hui au saignement du deuxième et du troisième trimestre de grossesse. Avant de vous laisser la parole à Sma, j'invite bien évidemment les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur l'application Lux Radio.
Alors, Hicham El Abbès Tahji, nous avions parlé dans une précédente édition des saignements du premier trimestre de la grossesse. On avait dit que c'est souvent alarmant, mais que ce n'était pas forcément synonyme de fausse couche. Qu'en est-il des saignements du deuxième et du troisième trimestre de grossesse? Est-ce que les pertes de sang se font plus rares pendant cette période? Et est-ce qu'elles sont plus inquiétantes que celles du début de grossesse? Trois questions, hein. Je sais, c'est beaucoup, mais on va
Alors,
essayer de répondre.
tout à fait. Une fois que le risque de fausse couche précoce, d'aberration chromosomique est passé, de décollement trophoblastique, de grossesse extra-utérine, c'est les causes principales donc de métrorragie du premier trimestre sont passées. Généralement, au deuxième trimestre, on ne saigne pas beaucoup. Après, il y a des complications qui peuvent être potentiellement graves au cours du troisième trimestre. Qui sont pas du tout donc liés aux mêmes causes et qu'il faut donc les investiguer, savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Donc les saignements au cours du deuxième et surtout du troisième trimestre sont alarmants parce qu'ils peuvent être liés à quelque chose de grave et donc c'est pour ça que tout saignement, c'est pas forcément grave, mais doit amener à consulter pour nous assurer qu'il n'y a pas de gravité particulière, qu'il ne faut pas sortir le bébé en urgence.
Alors, une chose est sûre, si je comprends bien, que ce soit des saignements du premier, du deuxième ou du troisième trimestre, ces saignements doivent être systématiquement suivis d'une consultation. Donc ça,
Exactement.
c'est primordial. Du
Exactement.
coup, quelles en sont les causes possibles?
Alors, au troisième trimestre, il y a trois causes dont on a peur, vraiment, qui sont graves, potentiellement graves. Ce qu'on appelle le placenta bas inséré, le placenta prévia ou bas inséré, c'est-à-dire qu'il est au niveau des membranes, au niveau du col. D'accord? Et donc, il est en avant de la présentation. Il y a différentes variantes. Il peut être totalement bas inséré. Et donc, le bébé ne peut pas traverser le placenta pour sortir. Il peut affleurer le col, il peut juste le dépasser un petit peu. Et ça, alors quand il va y avoir des contractions, ces contractions vont faire bouger les membranes et donc vont tirailler les membranes et à ce moment-là, donc faire saigner. Et donc le placenta prévia, donc ça va faire saigner. Et si cette hémorragie est cataclysmique et n'est pas, je dirais, très abondante, elle peut mettre en danger donc la vie du bébé, voire de la mère aussi. D'accord? Deuxième urgence, ce qu'on appelle l'hématome rétropéritonéal. L'hématome rétropéritonéal, c'est un vaisseau qui va éclater entre la paroi de l'utérus et le placenta, donc qui donne un hématome, mais qu'on voit dans 50% des cas dans le contexte de la prééclampsie, qu'on a déjà vu, la toxémie gravidique,
La semaine
l'HTA,
dernière.
l'hypertension artérielle. Associé à la grossesse. Donc, c'est une complication de cette prééclampsie où il va y avoir une consommation des facteurs de coagulation jusqu'à avoir cette HRP. Et cette HRP est une urgence absolue, déjà pour le bébé, parce que si on a la chance d'avoir un HRP avec un bébé vivant, et ben, il faut l'extraire le plus vite possible. Et aussi, dès qu'il y a un HRP, cet hématome va également consommer des plaquettes, consommer des facteurs de coagulation. Et donc entraîner un risque vital pour la mère. Et donc en cas d'HRP, il faut aussi accoucher le plus rapidement possible à maman, déclencher le travail, l'accoucher, voire la césariser si elle est encore.
Donc, si je comprends bien, les saignements du troisième trimestre, avec ces deux causes-là dont on parle depuis tout à l'heure, elles compromettent en fait la naissance par voie basse.
Tout à fait. On va en parler petit à petit quand on parlera de chaque cause. Troisième cause, ce qu'on appelle la rupture utérine. C'est-à-dire l'utérus qui va se rompre parce que soit parce qu'il y avait déjà un défect d'une première césarienne avec donc une fragilité de cette cicatrice qui va se rompre ou bien en cours de travail un utérus qui va exploser parce qu'il n'arrive pas à je veux dire le bébé n'arrive pas à passer. Donc ce sont trois causes très graves qui mettent en danger la vie du bébé et la vie de la maman. Et après, heureusement, ce ne sont pas les causes les plus fréquentes. Il y a d'autres causes qui sont plus fréquentes et qui sont moins graves, mais on ne peut pas les dire au téléphone ou quelque chose, vous avez saigné, ben c'est pas grave, ça va passer. On peut saigner parce qu'on a une cervicite, c'est-à-dire une infection du col. On peut saigner exceptionnellement, il y a un polype qui descend, ça peut faire saigner. On peut saigner parce qu'il y a une infection, ou il y a une rupture prématurée des membranes qui peut faire saigner. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un hématome marginal, c'est-à-dire c'est une petite veine du placenta qui est à la marge et qui va éclater, qui va donner ses saignements. Il peut y avoir aussi, donc on peut saigner au cours d'un rapport sexuel, on peut saigner exceptionnellement parce qu'il y a un cancer du col qui va se développer, qui est là. Et donc, toutes ces causes les plus fréquentes, je dirais l'hématome marginal, la cervicite, le rapport sexuel, il faut juste donc s'assurer que c'est que ça et que ce n'est pas donc une des trois urgences que j'ai citées auparavant.
Chère Madame Bastage, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Quels sont les examens qui sont effectués justement pour identifier une de ces causes dont vous parlez depuis tout à l'heure?
Première des choses, c'est l'examen clinique de la patiente. Évaluer le saignement. Est-ce qu'elle est en état de choc? Est-ce qu'elle a une bonne tension? La quantité du saignement. Est-ce que c'est, vous avez une mare de sang, elle vous le dit aussi, ou bien c'est quelques saignements. Mais des fois aussi, on va voir une discordance entre son état clinique. Elle est hypotendue, en état de choc, alors qu'il n'y a pas beaucoup de saignements. Peut-être qu'elle saigne dans son ventre. La palpation de l'utérus. Donc, premièrement, est-ce que le bébé est vivant ou pas? Est-ce qu'on perçoit les bruits du cœur fœtaux? Est-ce que le bébé bouge? Est-ce que l'utérus se relâche? Est-ce qu'il y a de la tension artérielle? Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle? Est-ce qu'on est dans un contexte de pré-éclampsie ou pas? Est-ce que l'utérus se relâche? Est-ce que ces saignements sont accompagnés de douleurs? Est-ce qu'il y a un travail? C'est différentes choses qu'on va s'assurer. Alors, on dit souvent que le toucher vaginal, c'est-à-dire examiner faire un toucher pour examiner le col, est contre-indiqué avant d'avoir éliminé un placenta prévia, parce que même un toucher pourrait faire saigner. Mais on peut, en fait, quand on est un peu expert, on peut essayer de toucher pour apprécier. C'est ce qu'on appelle un toucher prudent. Un examen au spéculum pour voir justement d'où vient ce saignement. Est-ce qu'il y a une cervicite? Est-ce qu'il y a un polype? Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce que ce saignement vient d'endo-utérin? Et le maître mot de ces examens, en plus d'examens biologiques pour évaluer le bilan d'hémostase, la NFS pour s'assurer de la quantité d'anémie ou pas, le maître mot de l'examen, c'est l'échographie. L'échographie avec éventuellement une sonde endovaginale pour voir le placenta, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est lui qui saigne? Pour voir est-ce qu'on voit pas un HRP, un hématome rétroplacentaire. On peut le voir, je vous dis, pour vérifier la vitalité fœtale. Est-ce que le bébé vit ou est encore vivant ou pas? Est-ce qu'on peut avoir donc voir un HRP en fonction du contexte clinique? Alors on va éventuellement discuter les causes. Si on suspecte un HRP et que le bébé est vivant, c'est une urgence absolue. On n'a même pas besoin de faire une échographie. Si on a une échographie, on va la faire de suite parce qu'elle est sous la main, mais il est hors de question de l'envoyer chez un radiologue ou de l'envoyer faire une échographie. Si le bébé est vivant, il faut extraire tout de suite. C'est génial si on a la chance de sortir un bébé avec un HRP. Parce que je vous dis, il n'y a plus de communication. L'HRP, l'hématome rétroplacentaire, son autre nom, c'est le décollement des PPNI. Décollement du placenta normalement inséré.
Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication entre
l'enfant. Il n'y a plus de communication entre l'enfant et la maman. L'enfant ne reçoit plus de sang.
Il menace sa vie, tout simplement.
Et donc, il va partir. Donc, si on a la chance de pouvoir le sortir tout de suite, on le sort tout de suite. Le diagnostic est clinique. Et même, il vaut mieux faire une césarienne en excès pour suspicion d'HRP, qu'on trouve rien, qu'on a sorti le bébé, que ne pas l'opérer en urgence. Mm-hmm. En cas de... Donc, voilà. L'HRP, encore une fois, c'est le contexte de pré-éclampsie. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des HRP.
C'est une complication, en fait.
De la pré-éclampsie. Des fois, 50%, on a des HRP qui peuvent survenir dans un autre contexte. Traumatisme abdominal avec accident de la voie publique, le coup de la ceinture. On peut avoir des HRP chez les fumeuses. Il ne faut pas fumer au cours de la grossesse. Donc, il y a d'autres causes d'HRP. Mm-hmm. Et l'HRP, encore une fois, est très grave. Et même à l'arrière, si on a un bébé qui est mort, et que il faut déclencher tout de suite l'accouchement. Il faut que l'accouchement se fasse dans les 6-12 heures. Si on voit que Le travail est entamé, que la patiente peut accoucher par voie basse, même si, je répète, le bébé est mort. On peut tenter l'accouchement par voie basse. Mais si c'est une primipare avec un col très long, fermé, on sent que l'accouchement ne va pas se faire dans les 24 heures, on va césariser pour sauvetage maternel. Parce que cet HRP peut se compliquer de la mort maternelle. Et donc, il faut absolument la sauver. Ça c'est la cause pour l'HRP. Je dirais la deuxième cause la plus fréquente aussi, enfin qu'on retrouve, c'est le placenta bas inséré ou le placenta prévia. Prévia veut dire qui est, c'est un obstacle entre la présentation et le col. Et donc quand le placenta est totalement recouvrant, il est inséré sur la zone basse de l'utérus, et ben le bébé ne peut pas le franchir. Et donc, c'est une césarienne programmée. On va programmer une césarienne à 39 semaines parce que le placenta est là, obstacle. Quand le placenta est ce qu'on appelle affleurant le col, il n'est pas inséré type 2, mais non totalement recouvrant, on peut tenter l'accouchement par voie basse. On peut, parce que juste la rupture des membranes, au moment du travail, juste la rupture des membranes va diminuer ces tiraillements qui entraînent les saignements. Et donc, on peut accoucher par voie basse, sauf bien sûr si le saignement est trop important. D'accord ?
Si je comprends bien, en fait, ces saignements peuvent aussi accompagner les contractions utérines.
Utérines, tout à fait. Justement.
Quand le travail commence.
Tout à fait, tout à fait.
Mais donc, ça, c'est normal.
Oui, ouais. Tout à fait. Mais là, comme vous dites, on est en cours de travail. Ouais. Donc, on peut le voir. En cours de travail, il y a deux complications qu'on craint. C'est la rupture utérine. L'utérine, je vous dis, surtout au code d'utérus cicatriciel, c'est-à-dire la femme qui a déjà été césarisée, eh ben on craint, c'est un signe qui doit nous alarmer. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de rupture utérine? Deuxième des choses, c'est quelque chose d'extrêmement rare, ce qu'on appelle l'hémorragie de Benkiser. C'est en fait, c'est un petit vaisseau qui est sur les membranes. Et quand on va rompre les membranes, ou quand les membranes vont se rompre spontanément, eh ben cette déchirure peut toucher le vaisseau, et donc il y a un vaisseau qui est directement branché au bébé, qui éclate, qui est rompu, et donc le bébé perd de son sang. Donc l'hémorragie de Benkiser, c'est le fait qu'on ait un saignement en même temps avec le liquide amniotique qui descend au moment de la rupture. C'est une urgence absolue aussi, on n'a que quelques minutes pour sortir le bébé. Mais heureusement, c'est très rare. D'accord.
Et dans quel cas, en fait, ces saignements justifient une hospitalisation prolongée?
Alors, quand on a un saignement, qu'on
parce
arrive à gérer...
Parce qu'ici, on parlait tout à l'heure surtout d'urgence, hein, de cas graves, mais il y a aussi des cas des origines non gravidiques, on va dire.
Tout à fait. Ben, l'origine non gravidique, ça va être le cancer, ou ça va être le polype. Le polype, il ne faut pas le toucher. Le cancer, on peut attendre quelques semaines, je ne sais pas si on parle du deuxième, troisième trimestre, on peut attendre quelques semaines pour extraire le bébé et après s'occuper du cancer. Le polype, il ne faut pas le toucher parce que dès que vous le touchez, vous l'étirez ou quelque chose, ça pourrait entraîner d'autres choses plus graves.
Vous pouvez nous expliquer plus en détail ce que c'est ?
Un polype ? Ouais. Un polype, c'est une excroissance c'est du tissu de l'endomètre. Mmh. Ce qu'on fait dans un polype en dehors de la grossesse, on va le bistourner, c'est-à-dire on va le tourner comme si on allait le tourner sur lui-même. Et donc cette torsion de plusieurs spires va elle-même fermer le petit vaisseau qui le c'est comme si vous berlingotez ou vous bistournez, on appelle ça le bistournage, on le tourne plusieurs fois de telle manière à ce que ces tours de spires de sur lui-même, il va couper le vaisseau nourricier, donc ça arrête de saigner tout simplement. D'accord.
Juste mais, pour revenir sur ces polypes, généralement c'est bénin, mais c'est ça bénin. Reste à surveiller.
Non, c'est bénin généralement. C'est bénin.
Ouais. Mais c'est pas annonciateur de risque de cancer par
non,
la suite,
c'est,
ce genre de choses.
C'est
il y a
dans
pas
un autre
lien
cadre, un polype fait. Chez une femme ménopausée, on peut en discuter un autre jour, doit alarmer, on doit l'analyser. Parce qu'une femme ménopausée ne devrait pas avoir de polype, ne devrait pas saigner. On a peur du cancer à ce moment-là.
Mais chez la femme enceinte. Donc il y a une distinction en fonction de la période de la vie.
Tout à fait. Chez la femme enceinte, on craint très peu le cancer. Mais un polype,
ça peut être à l'origine de saignements, donc il faut le.
Tout à fait. Ouais. Ça pourrait être à l'origine. Alors il reste donc l'infection, l'ectropion. Il y a quelque chose qui est souvent, on trouve souvent, ce qu'on appelle l'ectropion. L'ectropion, c'est une éversion, c'est de la peau du col qui ressort. Et l'endocol qui est dans le vagin. D'accord, c'est comme ça. Je peux pas vous le faire à la radio, mais c'est vraiment la partie intérieure de la lèvre.
Oui. De tourner votre lèvre.
Exactement, de faire sortir.
Inférieure.
De faire sortir la peau interne de la lèvre.
D'accord.
D'accord. Et ben, le col, c'est la même chose. Vous avez l'endocol, la peau interne du col
qui ressort, en fait.
Qui sort. Oui, mais à ce moment-là, quand on a un rapport sexuel, et ben, le pénis peut toucher cette partie interne et peut la faire saigner. Ce qu'on appelle l'ectropion. D'accord? C'est une cause. Une infection du col peut donner ça. Mais comme vous dites, là, alors autre chose, le décollement. Si on a eu des décollements au cours du premier trimestre, on peut avoir encore des petits reliquats d'hématomes qui sont là coincés et qui peuvent saigner par la suite. Ça m'amène à vous dire quelque chose. S'il n'y a pas d'urgence extrême, qu'on a éliminé un HRP, je vous dis, c'est urgence égale césarienne ou déclenchement.
Juste une chose, est-ce que l'abondance justement de l'hémorragie en question peut renseigner déjà la femme enceinte sur la gravité ou non de sa situation?
Tout à fait, on va la voir, l'abondance, mais il y a l'abondance.
Avant de voir le médecin.
Vous voyez le saignement et en même temps, vous voyez le retentissement sur la femme. Est-ce qu'elle est choquée? Est-ce qu'elle est en état de choc? Est-ce qu'elle est, comment elle est? Vous la devinez. Est-ce qu'elle a une bonne tension? Mais si cette hémorragie est cataclysmique, ben on va aller pour sauvetage maternel parce qu'on n'arrive pas à le... Mais le premier traitement, notamment de l'HRP, du placenta prévia, c'est le repos. C'est le repos parce que le repos, les progestatifs et ce qu'on appelle les tocolytiques, mettent des médicaments pour vraiment inhiber les contractions. Parce que ces saignements viennent de tiraillements des contractions et donc le placenta qui bouge, qui fait saigner. Donc c'est arrêter les contractions. Et si on arrive à arrêter les contractions et donc à arrêter le saignement, on peut attendre le maximum quelques semaines jusqu'à avoir la vitalité fœtale et qu'on peut sortir le bébé. Et bien sûr, si on n'arrive pas à arrêter les contractions, et bien à ce moment-là, il faut sauver le bébé, voire la maman, et donc il faut césariser. D'accord ?
Merci beaucoup, Hicham Malavastagi, pour Merci toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sachez que vous pouvez retrouver cette interview.